Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Je veux que toute personne dans cette assemblée puisse ouvrir sa Bible dans le livre de Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Verset 16. Je vais compter jusqu'à 3 et on va lire ensemble. Vous y êtes? Psaume 139. Verset 16, 1, 2, 3. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était écrit des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. 1, 2, 3, on reprend. Une fois encore, 1, 2, 3. Seigneur, merci. Je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, je crois que quiconque écoutera ce message sera bouleversé et changé par lui. Éternel, parle à nos cœurs, instruis-nous, révèle-nous ta volonté véritable, afin que nous puissions marcher en elle et par elle, afin que Dieu de gloire, ton nom soit glorifié dans nos vies et que dans nos générations, nous puissions faire des exploits, parce que la connaissance de notre Dieu aura excellé en nous. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Car aucune puissance ennemie, aucune force de Satan, s'opposant à la manifestation de ta gloire dans les cœurs, ne pourra atteindre son but. Car maintenant, je commande à ces forces de libérer l'entendement de chaque personne au nom puissant de Jésus. Et que la révélation de la parole, cet esprit de sagesse et de révélation, s'attache à chaque cœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Et que chacun dise Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. David dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. En quelque sorte, avant que je n'aie existé, tu me voyais déjà. Et il continue en disant, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire qu'il existe un livre où Dieu a écrit les noms des personnes et l'histoire de leur vie avant même que les hommes ne naissent. Et il dit, avant même que... qu'aucun de ces jours n'existât, tu avais déjà écrit. Et ça, c'est extraordinaire. Nous commençons une série qui va répondre à une pluralité, une multitude de questions auxquelles tout homme et femme intelligent, n'est-ce pas, est souvent confronté. Des questions que nous nous sommes posées et, qu'on nous pose le plus souvent. Le thème de cette série, c'est la destinée prophétique. C'est vrai, souvent nous avons entendu des prédications sur la destinée prophétique, mais je voudrais prendre le temps d'enseigner sur la destinée prophétique afin que chacun d'entre nous comprenne ce que c'est une destinée prophétique. En fait, ce que le passage nous révèle, c'est qu'il existe pour chaque être humain sur terre une destinée prophétique. Une destinée qui a été souverainement arrêté à l'avance par Dieu. Donc, s'il existe un jour, un livre dans lequel tous les jours de ma vie ont été inscrits avant qu'aucun d'eux n'existât, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a planifié toutes choses concernant ma vie et ma destinée sur terre. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est une destinée? Quand on parle de destinée, la destinée c'est quoi? La destinée c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. On parle de destinée quand on parle d'une puissance souveraine qui règle d'avance tout ce qui doit être. Ok? Ça c'est la définition selon le Petit Larousse. Maintenant, voici la définition que je vous donne sur la destinée prophétique. Qu'est-ce que c'est la destinée prophétique? Ce sont les plans et les buts arrêtés à l'avance par Dieu concernant la vie de chaque être humain. Les plans et les buts arrêtés à l'avance par Dieu concernant la vie de chaque être humain. Donc, Dieu a un plan. Dieu a un but pour lequel il a suscité chaque être humain vivant sur la terre. Il y a un plan, il y a un but. Dis à ton voisin, Dieu a un plan et Dieu a un but. Encore, Dieu a un plan et Dieu a un but. Et c'est vrai, Dieu a un plan et un but qui est arrêté d'avance concernant la vie de chaque être humain. Et vous voyez, Dieu a un plan pour chaque personne. Dieu a un plan pour chaque individu. Et vous voyez, si Dieu a un plan pour chaque individu, alors chaque individu devra être conscient de ceci. Le diable et l'enfer ont un plan pour chaque individu. Et le plan et le but que l'enfer a pour chaque individu, c'est d'empêcher chaque individu vivant sur terre d'accomplir les buts et les plans de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le rôle de Satan, le rôle de l'enfer, le rôle des ennemis, c'est d'empêcher la manifestation des plans et des buts de Dieu concernant la vie de chaque être humain. C'est pour ça que la Bible dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Qu'est-ce que le diable vient dérober? Qu'est-ce qu'il vient égorger? Qu'est-ce qu'il vient détruire? C'est les buts et les plans que Dieu s'est fixés concernant ta vie, concernant la vie de l'être humain sur terre. Dieu a un plan. Dieu a un but. Dieu a, n'est-ce pas, un objectif pour lequel chaque individu, chaque être humain sur la terre a été créé. Et en fait, réussir sa vie sur terre consiste à entrer dans les plans et dans les buts que Dieu s'est arrêté à l'avance nous concernant. Donc, si Dieu a un livre dans lequel tous les jours de ma vie ont été inscrits, réussir ma vie consiste à marcher selon les plans arrêtés par Dieu dans son livre me concernant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ça, la réussite sur la vie terrestre. Les plans et les buts que Dieu s'est fixés me concernant. Et vous savez, et tout ce que Dieu va faire dans la vie d'un homme sur la terre, tout que ce soit les bénédictions, que ce soit le mariage, que ce soit l'élévation, la prospérité, que tu sois, quelque chose que Dieu fera pour toi, il le fera dans un seul objectif, t'aider à accomplir les plans et les buts qu'il s'est fixés à l'avance pour toi. C'est la raison pour laquelle il le fera. Et quand tu décides d'entrer dans les plans et les buts que le ciel s'est fixé pour toi, tu jouis de la faveur du ciel et la faveur de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière chaque personne qui a à cœur l'accomplissement des buts, des plans, des desseins que Dieu a arrêté à l'avance le concernant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ma prière, mon désir, mon rêve, quel que soit ce que je fais, mes jeunes devraient atteindre un seul objectif, accomplir les buts et les plans que Dieu s'est fixés pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez, bon, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vivent pas
dans l'objectif d'accomplir les buts et les plans que Dieu a arrêtés à l'avance. Et si tu ne vis pas dans le but d'accomplir les objectifs, les desseins de Dieu, et tu jeûnes et tu pries, tu ne jouiras jamais de la faveur de Dieu dans sa plénitude. Parce que Dieu va soutenir toute personne qui a à cœur de réaliser les buts et les plans que Dieu a arrêtés à l'avance le concernant. Parce que Dieu a un but, un plan, des objectifs qu'il veut atteindre sur la terre au travers de chaque être humain qu'il manifeste. En fait, selon le psaume 139, verset 16, avant qu'aucun de ces jours n'existât, Dieu avait déjà écrit, n'est-ce pas, notre histoire dans un livre. Mais vous savez, écoutez-moi très bien. Avant d'arriver loin, je voudrais que vous preniez note du fait que chaque fois que Dieu veut, n'est-ce pas, faire quelque chose, il ne prend pas le risque d'avoir fait la chose sans l'avoir achevée. Dieu ne va jamais commencer quelque chose qu'il n'a pas déjà achevé. En fait, avant qu'il ne commence la chose, il a déjà achevé. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu est alpha et oméga, il est commencement et fin. Donc, avant même que ta vie ne commence, Dieu l'a déjà achevé. Et il te met au début, juste pour que tu puisses voir la manifestation des desseins qu'il a arrêtés à l'avance. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est extraordinaire. Dieu achève avant de commencer. C'est pour ça que c'est pas par tes prières que tu informes Dieu de ce qui se passe. C'est pas par tes jeûnes que tu demandes à Dieu de te soutenir. En fait, dans son livre, il a déjà inscrit des jours en ce qui te concerne. En fait, nous prions, nous jeûnons pour davantage nous rapprocher de la volonté parfaite de Dieu et avoir la foi en Dieu pour l'accomplissement de ce qu'il a déjà arrêté. À l'avance. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Il y a quelque chose quand même qui devrait nous intriguer. Dieu est dans le ciel. Il est avec ses archanges, ses anges. Il a toute la gloire. Mais qu'est-ce qui prend Dieu pour qu'il crée l'homme? Mais qu'est-ce qui a pris Dieu pour que Dieu crée l'homme? Est-ce que Dieu était déjà épanoui dans le ciel? Dieu n'a pas besoin de l'homme pour être ce qu'il est. Mais pourquoi est-ce que Dieu a la pensée de créer l'homme? Nous devons souvent nous poser cette question. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as eu besoin de moi? Avec tout ce que tu as. La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Tu pouvais te priver des hommes et puis laisser les lions être avec toi, même puisque même les oiseaux des champs t'adorent. Donc, ça veut dire que tu pouvais te passer de l'être humain. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu penses homme? Quelle était la raison? Pourquoi est-ce que Dieu est allé penser à créer l'homme? Pourquoi? Qu'est-ce qui a pris Dieu? Vous voyez, si cette question a souvent traversé votre pensée, levez la main, je veux voir. Dieu n'a pas jugé utile de se contenter simplement des anges, des archanges, des animaux, des plantes. Il est allé plus loin, il a suscité l'homme. Mais quelle est la raison? Genèse 1, verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Répète après moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Encore au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Encore au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais que vous observiez que Dieu n'a pas jugé utile de vous expliquer comment lui-même il a commencé. Il a jugé utile de vous expliquer comment le monde dans lequel on se trouve a commencé. Mais avant le commencement, Dieu était déjà là. Hein? C'est Dieu qui a commencé le commencement et qui mettra fin à la fin. Donc, il est suprême au-dessus de tout. Et il nous dit,
dans sa parole qu'il nous a donnée, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au deuxième verset, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais observons ceci. Au commencement, qui a créé? Qui a créé? Dieu a créé quoi? Le ciel est là et la terre. Vous savez, chaque créateur a une marque qui donne à sa chose de ressembler, n'est-ce pas, à ce qu'il fait. Quand vous regardez les Mercedes, il y a son insigne. Volkswagen a son insigne. Vous voyez des tailleurs, chacun a son insigne quelque part pour laisser la griffe. Parce qu'en fait, la création révèle le créateur. Et plus on est fort, plus notre, ce qu'on a créé révèle la grandeur de ce que nous sommes. C'est pour ça que certaines chemises sont plus cotées que d'autres. Parce que c'est tel créateur qui l'a fait et il est reconnu pour son expertise et sa qualité de travail. Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, Dieu a créé le premier Dieu crée. Il crée le ciel, il crée la terre, les cieux et la terre. Maintenant, la Bible dit que la terre était informe et la terre était vide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si Dieu crée, ce que Dieu a créé ne peut pas ne pas avoir de forme. On est d'accord là-dessus? Parce que si Dieu crée quelque chose, la chose devra avoir la forme. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que Jésus a fait toutes choses excellemment et tout dans la maison de l'Éternel s'écrit gloire. Parce que tout ce que Dieu fait est glorieux. Donc si c'est informe et vide et qu'il y a des ténèbres sur la terre, c'est certainement une œuvre qui n'appartient pas à Dieu. C'est certainement quelque chose qui existe là, entre le premier et le deuxième verset, que la Bible ne nous a pas montré. Parce que c'est impossible que juste après que Dieu a créé, la terre soit informe et la terre soit vide. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pour que la terre soit informe, pour que la terre soit vide, pour qu'il y ait des ténèbres. Et nous savons que Dieu est lumière. Donc, il n'y a en lui aucune nombre de variations. C'est impossible de trouver en Dieu des ténèbres. Donc, c'est impossible de trouver en Dieu, ou alors sur ce que Dieu a créé, des ténèbres. Parce que les ténèbres ne sortent pas de Dieu. Qu'est-ce qui s'est donc passé entre le premier verset et le deuxième? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ce que Dieu a créé puisse ne pas avoir de forme? Ézéchiel 28, verset 15 à 18. Ézéchiel 28, verset 15 à 18. Il dit, Seigneur, révèle-moi ta parole. Parle-moi de tes mystères. Ézéchiel 28, verset 15 à 18. La Bible dit, est-ce que ça va? La Bible dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Souvenez-vous que la Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Et ici, Dieu s'adresse à quelqu'un disant, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alors, revenons dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, versets 13 à 15. On va bien comprendre ce qui s'est passé. Ésaïe 14, versets 13 à 15. Je vais lire. Tu disais en ton cœur, je monterai au-dessus du ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ici, il s'agit de, au commencement, quand la Bible dit de créer les cieux et la terre, et là, il s'agit, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé avant que la terre ne soit informe et ne soit vide. En fait, au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu régnait dans sa gloire. Et le gouvernement de Dieu était constitué de trois départements ministériels très importants. Il y avait un ministre d'État chargé de l'armée, appelé Archange Michaël, qui dirigeait le un tiers des anges de Dieu. Et il y avait un autre ministre d'État qui était chargé de la communication, qui était appelé Archange Michaël. Et il y avait un autre ministre d'État, lui, il était chargé de la louange et adoration de Dieu, qui était appelé Archange Lucifer. Et l'Archange Lucifer dirigeait aussi le un tiers des anges. Chacun des archanges dirigeait le un tiers des anges de Dieu. Maintenant, l'archange Lucifer, qui était dans la présence de Dieu, étincelant en beauté et en magnificence, a décidé de prendre la place de Dieu. Il était fatigué d'apporter la louange au Créateur et il voulait maintenant que la louange lui soit apportée. Alors, pour la première fois dans l'univers, l'archange Lucifer va fomenter un coup d'État pour prendre la place de Dieu et s'asseoir là, au-dessus de Dieu, et de se poser au-dessus de lui. Alors, Dieu, qui est omniscient, qui sait tout, avant même que la chose n'existe, en tout temps et en tout lieu, va détecter le coup d'État et le complot que Lucifer et le un tiers des anges qui étaient à son service sont en train de mener contre lui. Et donc, Lucifer, n'est-ce pas, va être convoqué par Dieu, qui est au-dessus de tout. Et il va dire à Lucifer, qu'est-ce qui t'a piqué? Tu étais étincelant dans ta beauté, rayonnant de gloire. Au-dessus de mes archanges, j'étais établi. Tu étais la créature la plus merveilleuse. Ce qu'il y avait de plus excellent, j'ai déposé en toi. Je te l'ai donné. Lucifer, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir prendre ma place? Il dit, ok, Lucifer, cette affaire, comme je vois ton cœur et ta détermination à t'opposer à moi, je vais te montrer que moi, je suis Dieu. Que avant même que tu n'existas, j'étais. Et personne parmi vous ne peut expliquer mon origine parce que je suis Dieu. Je vais te montrer, Lucifer, que tu ne peux pas t'égaler à moi. C'est impossible. D'ailleurs, ange Michaël, archange Michaël, précipite-le sur la terre. Bon, Dieu dit à Lucifer, je ne suis pas digne, moi, Dieu, de régler avec toi direct à direct. Tu es trop petit pour moi. Je ne viendrai pas me bagarrer avec toi. C'est pas possible. Je vais juste prendre un parmi toi pour te montrer que c'est pas parce que tu étais bon que tu étais plus fort. Et il y a l'ange Michaël, le commandant en trouble de mon armée, qui va te précipiter sur la terre. Et il dit à Lucifer, Lucifer, écoute-moi bien. De la terre, ton problème sera réglé. Je vais susciter sur la terre une créature en qui je veux déposer la royauté. Je les appellerai des rois. Et c'est eux qui, sur la terre, vont venir un peu te montrer ce que c'est être soumis. C'est eux qui vont te maîtriser et qui vont te dompter. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là que Dieu pense, création de l'homme. Il faut que l'homme vienne, parce que l'homme va venir montrer à Satan qui je suis. Avant que Satan ne soit précipité dans la fosse, je vais amener l'homme pour punir le diable et pour contrôler le diable, afin qu'il réalise que même sur la terre, il y aura des êtres physiques à mon image, à ma ressemblance, qui vont lui montrer qui moi je suis. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a suscité. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais moi, Dieu pensait à moi quand il parlait de ça. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez, quand vous le comprenez, ça devient aberrant, insultant, répugnant, méprisant, dévalorisant à l'égard de Dieu que de penser un seul instant que notre rôle, c'est de combattre d'égal à égal avec le diable. Jamais. Dieu n'a jamais pensé ça. Une seule minute. Il n'a jamais donné au diable la place qu'on lui donne à l'église aujourd'hui. Jamais. Parce que pour Dieu, la solution avait déjà été trouvée. N'oubliez jamais que ce que vous valorisez aura de la valeur. et ce que vous méprisez sera méprisable. Donc si vous accordez de la valeur à Satan, il aura de la valeur à vos yeux. Mais il faut apprendre à valoriser ce que Dieu valorise. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, quand un problème arrive, la première réaction, je délie Satan. Non, écoutez-moi bien. Ou alors, non, écoutez, ne donnons pas trop à Satan une si grande valeur. Vous savez, suivez-moi très bien. Quand Dieu va propulser Lucifer sur la terre, alors, voici exactement ce qui manque entre le premier verset et le deuxième. La Bible dit, ça c'est la version selon le révérend Raoul Waffo, pas lui Segor ni Scofield, mais version Waffo. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu était dans son règne et sa gloire à la montagne de Sion. Dans le gouvernement de Dieu, il y avait un archange appelé Lucifer, chargé de la louange et adoration, qui s'est levé contre Dieu et a désiré prendre sa place. Mais Dieu n'a pas jugé utile de régler ce problème dans le sanctuaire de sa gloire et de sa présence. Alors, il est venu à Dieu l'idée de susciter une autre créature sur la terre, où Lucifer et ses anges ont été précipités afin de démontrer à Lucifer quelle était la force que Dieu pouvait incarner dans ses actions. Alors, Lucifer et ses démons furent précipités. En ce moment-là, la terre devint informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu descendit sur la terre et commença à se mouvoir au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, paf, et elle fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière avec les ténèbres. Ce fut le premier jour. Et donc, Dieu a commencé à manifester sa gloire sur la terre, à créer, à mener à manifestation sur la terre la création. Au moment de susciter les plantes, Dieu créa, n'est-ce pas, au moment, il parla à la terre, et la terre, paf, produisit des plantes. Au moment de créer des poissons, il parla à l'eau, pouf, l'eau sortit des poissons. Et au moment de manifester la créature, celle qui devait infliger à Satan sa correction, Dieu ne vit aucun objet terrestre à même de produire cette créature. Et le conseil de Dieu siégea. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il disait, quelle est la matière à partir de laquelle l'homme sera produit? L'or ne trouva pas de valeur aux yeux de Dieu. Le diamant ne fut pas si précieux pour se produire l'or. Alors Dieu décida, malgré toutes les ressources, d'utiliser la matière qui est lui-même, de sortir l'homme, oh my God, de lui-même. Et c'est alors que Dieu fit l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme sorti de Dieu. Mais vous voyez, l'homme est sorti de Dieu. Oh, quand tu te regardes dans un miroir, tu es sorti de Dieu. La matière que Dieu a utilisée pour te créer, c'est Dieu. C'est lui-même. Il a parlé à lui et il t'a suscité. Quelle grâce. Alors, c'est pour ça que David vous a dit, je sais que je suis une créature si merveilleuse. Ah là là, merveilleuse créature. Qu'importe ce que ton voisin pense, ce que la société pense, même si ton nez a 25 cm de long, tu es merveilleuse créature. Alléluia. Amen. Pas de complexe. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Oh, quoi de plus intéressant. Merveilleuse créature. Je le suis. Je suis merveilleusement créé. Alléluia. Une merveilleuse créature. Alors, suivez-moi bien. Ce premier homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien que Dieu ait un plan pour lui, le premier homme n'a pas réussi sa mission sur terre. Adam et Ève, après, ont échoué, n'est-ce pas? Mais je vais plus loin en vous demandant ceci. Je vous pose une question. Est-ce que Adam et Ève ont échoué parce que l'homme était, le diable était plus fort? Non. Parce que, quand Dieu a créé l'homme, il dit à l'homme, homme, écoute-moi bien, il créa l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Donc Dieu a pensé domination. Il savait qu'il y aurait opposition et il a pensé domination. Donc il a dit domine. La domination s'exerce après la résistance.
après la bataille. Donc l'homme a été suscité comme un guerrier. Dieu savait qu'il y aurait une opposition. Suivez-moi bien. Le premier homme qui a péché n'était pas possédé. Le premier homme qui a péché n'avait pas de père qui était possédé. Et si vous dites, la raison pour laquelle j'échoue, c'est parce que mon père était pécheur, alors vous voulez dire que Adam n'avait pas de raison d'échouer. Ou alors, vous allez plus loin en disant, certainement qu'on avait besoin de faire la délivrance de Dieu. Ou de couper le cordon qui reliait Adam de Dieu. Le cordon ombilical de l'homme, c'était Dieu, direct. Donc, le diable, vous comprenez, n'est pas assez puissant pour empêcher les desseins de Dieu de se réaliser à ton égard. C'est pas possible. Sinon, Dieu ne t'aurait jamais suscité. Il t'a suscité parce qu'il savait qu'en toi, ce que tu avais était plus fort que ce que le diable avait. Claire. C'est la raison pour laquelle il t'a suscité. Parce qu'il savait que tu étais plus fort. Ce qu'il a déposé en toi était plus grand, était plus extraordinaire, était plus merveilleux. Maintenant, suivez-moi bien. Voilà la raison. Voici la raison pour laquelle Adam et Ève ont eu des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que je vais t'enseigner maintenant. Pourquoi est-ce que, quand Dieu crée l'homme, il envoie l'homme sur la terre? Parce que, au ciel, Dieu a eu un problème avec Lucifer. Quand Lucifer a quitté le ciel et est descendu sur la terre, il y a eu une transformation de Lucifer en Satan à cause de son caractère et non à cause du caractère de Dieu. Suivez-moi bien. Dieu peut t'avoir créé merveilleuse et tu finis maléfique. Satan, démon possédé par quoi que ce soit, parce que tu auras devenu ce que tu veux devenir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit en repos entre les mains de Dieu. Non, mais avec un libre arbitre de choisir soit la soumission à Dieu, soit au mal. Et il crée l'homme. Mais quand Dieu va créer l'homme, suis-moi bien, Dieu va créer l'homme où? Il va le créer où? Il va le créer où? Non, c'est ça le problème. L'homme n'a jamais été créé sur la terre. Non, l'homme a été créé au troisième ciel, dans la présence de Dieu. Il est sorti de Dieu. Dieu crée l'homme au ciel, pas sur la terre, non. Non, il crée l'homme au ciel. Il le crée à son image. Il le crée à sa ressemblance. Et vous voyez, Dieu est omniscient. Il sait tout. Et donc, le moment d'amener l'homme sur la mission, là où l'homme devra rester, Dieu prend le soin de préparer l'environnement où l'homme va rester. Parce que le problème a eu lieu où? Le problème a eu lieu où? Hein? Où? Et Dieu a choisi que le problème puisse se résoudre où? Je reprends. Le problème a eu lieu où? Au ciel. Et il devra être résolu où? Sur la terre. L'homme est créé où? Au ciel. Pour résoudre le problème de Dieu où? Sur la terre. Il ne faut jamais l'oublier. L'homme est créé au ciel. L'homme n'est pas créé sur la terre. L'homme a existé avant de naître. Parce que vous devez faire la différence entre le moment où je suis créé et le moment où je nais. Parce que beaucoup de personnes croient qu'ils ont commencé à exister le jour où ils sont nés. Et c'est pour ça que le psaume 139 nous dit, tu me connaissais avant même que je ne sois une masse informe. Donc, avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, comme ce fut adressé à Jérémie, je te connaissais. Donc, on a existé avant que le monde ne nous voie. Avant que ton père et ta mère ne te voient, tu existais. Et tu devras être conscient de ton existence avant ta naissance. Est-ce que ça va? Dans le futur enseignement, je vous montrerai quels sont les critères qui ont poussé Dieu à t'amener à être noir et non blanc, ou blanc et non métis, ou métis et non jaune. Pourquoi le chinois est chinois et l'américain n'est pas chinois?
Et le noir est africain et il n'est pas européen. Quels étaient les critères de sélection pour que Dieu envoie chacun de nous dans une race précise? Depuis Sam Japheth, montré depuis Noé à la sortie de l'arche, comment la replanification terrestre a été effectuée par Dieu. Pourquoi est-ce qu'un homme qui vit sous les tropiques ne peut pas être épanoui vivant dans la glace? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de cancer de peau alors qu'un blanc qui vient ici, qui reste sous le soleil comme toi après 3 ans, va attraper certainement un cancer? La relocalisation, quelles étaient les bases qui ont poussé Dieu à mettre chacun dans tel continent, en fonction de quoi? Et donc, suis-moi bien, Genèse 1, verset 26, verset 28, on va entrer dans Genèse, ok, on y reviendra plus tard. Ok, écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien, c'est là où le message commence. Écoute-moi très bien maintenant. Genèse 1, verset 26, 27, 28. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme. Dieu dit, faisons. Dieu dit quoi? Mais pourquoi Dieu n'a pas dit, je fais? Pourquoi Dieu me dit, Dieu dit, faisons? Parce que normalement, si je parle, on dira, ou alors, on dira, l'homme de Dieu a dit, faisons, ou je fais, parce que c'est lui qui agit. Mais pourquoi je peux dire, faisons? Ça veut dire que celui qui parle n'est pas seul. En fait, celui qui parle n'est que porte-parole d'une résolution qui a été prise en concertation. Donc, celui qui parle est le porte-parole d'une décision gouvernementale. Donc, le porte-parole n'a pas commencé avec le gouvernement terrestre. Le porte-parole a commencé avec Dieu. Dieu dit, faisons. À la résolution du conseil de Dieu, la décision a été arrêtée que l'homme devra être fait par nous à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Suivez-moi bien. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu n'a pas maudit, Dieu les bénit. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Maintenant, écoutez-moi. Dieu dit, faisons. Est-ce que quand Dieu dit, faisons, l'homme est déjà fait? Oh, allons-y, soyez intelligents. Quand je dis faisons, est-ce que l'homme est déjà fait? Si je dis, je vais fabriquer le paquet de lotus, est-ce que le paquet de lotus est déjà fabriqué quand je pense le fabriquer? Non, pas encore. Est-ce que vous me comprenez? L'homme, je pense, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il dit, faisons, mais il dit, afin qu'il domine. Mais quand Dieu pense faire l'homme, l'homme n'est pas là. L'homme n'est pas au courant des intentions de Dieu à son égard. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je vais plus loin. Quand un mari aime sa femme, ce n'est pas automatique que la femme sache que le mari l'aime. Si le mari n'a pas dit, la femme ne saura pas. Si la femme n'a pas dit, le mari ne saura pas. Et en plus, au-delà des paroles, il faudra que les actes qui correspondent à ce qui a été dit se posent pour que la vérité s'établisse dans le cœur. Dieu dit, faisons. Mais c'est ce que Dieu a pensé. Je pense qu'il faut que l'homme domine. Je pense qu'il faut que l'homme soit à mon image. Mais maintenant, quand le diable arrive, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme... Oh my God, tu seras comme Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Dieu dit, faisons l'homme à l'image de qui? À qui? À qui? Il dit, faisons l'homme et la femme à notre image. Je crois que si la femme avait gardé l'intention de Dieu à sa création, la séduction n'allait pas être facile. Parce que Dieu dit, faisant l'homme à notre image. Donc, l'homme était déjà à l'image de Dieu. On est d'accord. Et le diable arrive et il dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Mais comment est-ce que l'homme a été créé? Comme Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe pour que de la création à la naissance, à la manifestation, à la formation terrestre, l'information a été oubliée. Le problème des chrétiens, même aujourd'hui, c'est qu'on oublie ce que Dieu a pensé à notre égard avant qu'on ne vienne. Une fois que tu l'oublies dans le naturel, tu ouvres la porte à Satan. Parce que une fois que tu oublies ce que tu es, le diable te prendra, il aura avantage sur toi. Est-ce que ça va? La femme ne s'est pas souvenue qu'elle était déjà comme Dieu. Elle a pris le fruit et elle a mangé pour devenir comme Dieu, alors qu'elle était déjà. Est-ce que ça va? Elle était déjà comme Dieu, n'est-ce pas? Oh, je te donnerai la puissance, je te donnerai l'ancien, je te donnerai l'argent, je te donnerai ci. Tout ce que le diable te propose, c'est parce qu'il sait qu'il a été dit cette chose à ton égard quand Dieu voulait te créer. Le diable ne peut rien te donner. Rien. Rien, rien et rien. Tout don parfait vient du Père de lumière. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez-moi bien. Au verset 27, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'homme et la femme. Et la Bible précise que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Quand Dieu a béni, il a béni qui? Oh my God, est-ce que vous êtes là ce matin? Comment, on ne dirait pas qu'on est au temple de la foi, où la parole est enseignée tout le temps. Alléluia. Dieu a créé qui et qui? L'homme est là, et quand il a béni, est-ce que la Bible dit Dieu le bénit? Dieu a béni qui? Les deux, n'est-ce pas? Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit, soyez féconds. On ne peut pas dire à une personne, sois fécond, on dit toujours à deux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prier pour une femme seule qui dit, je veux un enfant. On le fait avec une autre personne. Hein? Si tu ne peux pas montrer la personne avec qui tu vas faire là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que quand Dieu relâche sa bénédiction, il faut que les deux soient là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Un jour, je suis allé prier dans une église et j'ai dit, oh, maintenant il y a une grâce ici, Dieu va donner des enfants aux femmes. 17 femmes sont venues. Et j'ai dit, je veux des femmes qui ont une alliance, qui appartiennent à quelqu'un. Toutes sont rentrées, il n'y avait qu'une seule qui est restée. Est-ce que vous me comprenez? Une seule est restée. Mais Dieu les a bénis tous les deux. Il n'a pas mis la femme derrière, la femme était dans le plan. Mais le diable est passé par la femme. Suivez-moi bien. Dieu, bien qu'il ait créé l'homme et la femme, le même jour, il a choisi d'amener l'homme sur la terre en premier et la femme après. La femme a retardé dans la présence de Dieu. Et l'homme est venu avant. Et donc, après, Dieu a sorti la femme de l'homme et l'a manifestée sur la terre. Et quand le diable arrive, la femme oublie ce que Dieu a dit à son égard. En fait, la question qu'il faut se poser, c'était quand est-ce que Dieu a dit à l'homme que vous êtes à mon image? C'est la question qu'il faut se poser parce que Dieu est omniscient. Il savait que le problème allait se poser. Mais à quel moment Dieu a dit dans la Bible à l'homme que vous êtes comme moi? Est-ce que l'homme était au courant de cette information? Est-ce que l'homme le savait? Si même l'homme le savait, il semble que l'homme l'avait oublié. Parce que si l'homme était conscient de cela, il n'aurait pas mangé. Est-ce que ça va? Maintenant, allons-y plus loin. Dis, révèle les mystères. Enseigne la parole. Parle à mon âme. Maintenant que l'homme et la femme vont commettre le péché. Vous voyez, vous savez, quand Dieu a dit faisons, le mot faisons, là, souvent, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Ça vient d'un mot grec que Asa. Il a dit, accomplissons l'homme, appliquons-nous, parons l'homme, investissons en lui de telle enceinte que l'homme soit une créature extrêmement glorieuse. C'est ce que ça veut dire. Mais malgré cette gloire, l'homme a failli, l'homme a péché, l'homme est tombé sous les pieds de Satan. Et, suivez-moi bien, voici le vrai problème. Quand l'homme, Dieu voulait créer la plante, il a parlé à quoi? À quoi? À la terre. Et quand il créa le poisson, il a parlé à quoi? Aux eaux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Que la terre produise. Que les eaux produisent. En quelque sorte, que la terre exerce dorénavant son leadership sur les plantes. Et que l'eau soit leader sur le poisson. Mais au moment de l'homme, il parle à lui-même que nous nous produisons. Suivez-moi bien. Aucune plante, quelle que soit, même comme la plante est au-dessus de la terre et semble gouverner la terre, aucune plante n'a son véritable éclat si la terre n'est pas bonne. En fait, la santé de la plante dépend de la richesse du sol. Et quand vous prenez un poisson, vous pouvez déterminer dans quel type d'eau il a été. Le poisson d'eau douce est plus doux que celui de la mer parce qu'il sort des eaux douces. Est-ce que ça va? Très bien. Et je vais plus loin. Si vous enlevez la plante de la terre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui la produit. Vous enlevez le poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Souvent, on dit qu'il meurt, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai si la plante qui a été enlevée reste hors de la terre pendant longtemps. Mais si vous la remettez après, elle reprend vie. Elle ne meurt pas. Même chose pour le poisson. Et dans l'ancienne alliance, nous avons été déconnectés de Dieu et on est mort. Il n'y avait plus de possibilité de nous replanter en Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Écoutez-moi bien. Jésus est venu pour que nous qui sommes sortis de Dieu, le jour où le diable ou la chair ou le monde nous fait sortir de Dieu, qu'il n'y ait plus de barrière, qu'aussitôt on reparte dans Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 parce que la porte est ouverte. Est-ce que vous me comprenez? Le vrai problème, c'est que la mort survient aussi longtemps que le poisson ne peut plus rentrer dans l'eau. La destruction arrive quand la plante ne peut plus être replantée. Et ta ruine survient quand tu ne peux plus repartir en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le diable va s'arranger à te décourager au maximum quand tu as commis un péché afin que tu ne reviennes plus. Aussi longtemps que tu reviennes en Dieu, c'est comme le poisson qui repart dans l'eau, tu continues ta nage. Sans aucun problème. Pourquoi? Parce que tu es reparti du milieu où tu appartiens. Maintenant, suis-moi bien. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Suis-moi bien. Voici le problème. Si le poisson a un problème, où est-ce que le poisson ira chercher la solution? Où? Vous avez déjà vu un poisson qui va dans les champs chercher la solution? Pourquoi? Parce que l'eau l'a produit. L'eau a sa solution. Ce n'est pas ailleurs. La plante ne cherchera jamais sa solution hors de la terre. Mais pourquoi est-ce que l'homme, au moment de ses problèmes, veut chercher la solution hors de Dieu? Vous me comprenez? Et c'est exactement ce qui s'est passé quand le diable est arrivé. Il a amené l'homme à trouver sa solution hors de Dieu. Mais si l'homme rentrait en Dieu pour dire « Je veux être comme toi », alors Dieu lui aurait dit « Tu es comme moi ». Mais c'est parce qu'il a cherché sa solution en dehors de Dieu que le problème a survenu. Il ne faut jamais chercher la solution à tes problèmes en dehors de Dieu. Jamais. Parce qu'aussi longtemps que tu essaies, c'est ta mort. Le charlatan, les féticheurs, la rose croix et les astres ne t'ont jamais créé et ne peuvent pas déterminer ta destinée. Il y a un seul créateur, c'est Dieu. C'est la seule personne de déterminer qui tu es. Et ma Bible dit,
Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Ce qu'il a béni, personne ne peut. Et un autre verset dit, ce que Dieu a béni est éternellement béni. Donc, qui est le diable? Qui est le prochain? Qui est le semblable pour empêcher la manifestation de cette gloire? Personne ne peut le faire. Est-ce que vous me comprenez? Personne. Pourquoi? Parce que je reste en Dieu chercher ma solution. Nulle part ailleurs. C'est en lui que se trouve la solution à mes problèmes, dans le Seigneur et non ailleurs. Ton entreprise va prospérer à cause de Dieu. Ton mari va t'aimer à cause du Seigneur et non à cause des fétiches. Tu auras des enfants, pas à cause du marabout, mais à cause de ton Créateur. Cette année sera pour toi une année de gloire à cause de l'Éternel. Tu auras l'accomplissement en Dieu à cause de l'Éternel. Quel que soit ce que tu traverses, l'Éternel est ta solution et il fera son miracle pour toi. Parce que c'est lui qui t'a créé, personne d'autre. C'est lui ton Créateur. C'est en lui, c'est dans le Seigneur et non en personne d'autre que se trouve notre réel épanouissement. C'est dans le Seigneur. Maintenant, pour terminer, suivez-moi bien. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Nous dépendons de Dieu. Dieu est la source de nos solutions, de nos solutions. Il est extrêmement fidèle. Mais Dieu a créé l'homme pour un but. Il a créé l'homme pour un but. L'homme n'était pas au courant du but de Dieu quand Dieu l'a créé. Qu'est-ce qui va amener l'homme à savoir pour quel but Dieu l'a créé? La parole. Dieu dit, je vous bénis, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Vous voyez, le mot dominer revient parce que Dieu a pensé domination pour l'homme. Il l'a révélé par la parole. Suivez-moi bien. Chaque destinée prophétique est rattachée à une parole prophétique. Il faut l'écrire. Chaque destinée prophétique est rattachée à une parole prophétique. Dieu parle à Jérémie. Jérémie. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Jérémie, afin que tu ne sois dans le vent de ta main, je te connaissais. Qu'est-ce que Jérémie a entendu? Une parole prophétique. La parole de l'Éternel fut adressée à Marie. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils qui sera grand devant l'Éternel, on l'appellera Jésus. Et après, dans notre version, Emmanuel, Dieu est avec vous. C'est une parole quoi? Prophétique. Elle révèle quoi? Le mandat. Le mandat que nous avons dans notre destinée. La parole prophétique révèle notre mandat. Le but pour lequel on a été créé. La parole prophétique. Vous comprenez pourquoi il est dangereux de rester sous une onction qui est qualifiée de prophétique et qui ne raconte que des paroles prophétiques qui sont dites pour le profit de la poche de celui qui les donne. Toutes les paroles prophétiques entre griffes ne sont pas prophétiques. Il y en a qui sont prophétiques, qui viennent pour le profit de celui qui parle. Quand la parole prophétique est relâchée, elle ramène ton cœur dans le but et la pensée de Dieu. Elle ne ramène pas ton cœur ailleurs qu'à Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, le prophète ramenait les cœurs du peuple de Dieu à Dieu, au destin de Dieu pour lui. Et dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, dans nos églises, les prophètes ramènent les comptes bancaires des gens dans leur poche. Pas des paroles prophétiques, non. Et c'est pour ça que Dieu punit sévèrement les faux prophètes. Parce que une parole que tu as qualifiée de prophétique, mais qui t'a menti, peut réduire ta destinée. Il faut faire très attention. Gloire à Dieu. Parce que dans la Nouvelle Alliance, les enfants de Dieu ne sont plus conduits par les prophéties. Oh, prophétise, dis-moi ce que Dieu veut pour moi. Non. Dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu n'ont pas la responsabilité de diriger la vie des hommes comme s'ils étaient le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est souverain. Et même quand une prophétie t'est donnée de la part d'un prophète, Dieu te donne le libre cours de l'examiner à la lumière de la parole.
J'ai vu des gens qui se sont mariés par prophétie. D'autres ont divorcé par prophétie. D'autres sont devenus pasteurs par prophétie. D'autres sont devenus bishops par prophétie. Et je vais vous dire, faites attention. Faites attention. Tous ceux qui prophétisent ne prophétisent pas toujours. D'autres mentent au lieu de prophétiser. Et si même ils ne mentent pas, et que l'homme est homme, avant d'être homme de Dieu, on est homme, et que dans sa dimension humaine, il a commis une erreur, il va t'égarer et te détruire par son erreur. Donc, il faut examiner. Et sachez ceci, chaque homme de Dieu, pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, docteur, tous ces gens, tous les saints dons du ministère, sont devenus dans le Nouveau Testament des prophètes de Dieu. Tout ça, c'est au ministère, peuvent exercer au ministère prophétique. Donc, le fait de venir à l'église, de s'asseoir, d'écouter la parole, devra t'aider à entrer dans les buts et les desseins de Dieu, et rien d'autre. Pas pour la dénomination, pas pour le pasteur, pas pour autre chose, mais pour le but du royaume. C'est la raison pour laquelle les saints dons de Christ ont été suscités, afin que chacun accomplisse sa destinée. Alors, si tu es destiné à être un homme d'affaires, on t'encourage. On ne dit pas non, c'est démoniaque. Non, on t'encourage. Politicien, chef d'entreprise, pasteur, plombier, médecin, quel que soit le domaine, on t'encourage. Lors du message prochain, je vais te montrer comment ton mandat est rattaché à une provision céleste qui est constamment au-dessus de ta tête et n'attend que toi pour descendre, afin que tu serves puissamment les intérêts du royaume. Tu comprendras pourquoi, à un certain moment, le soleil à Gabaon s'est arrêté chez Josué. Pourquoi la baleine a vomi Jonas à Ninive et pourquoi la mer était en tumulte. Tu comprendras pourquoi la barque s'est arrêtée tout de suite et la mer quand Jésus a parlé. Il y a des choses qui n'arrivent qu'aux hommes et aux femmes qui ont compris quelle était leur destinée en Dieu. Que Dieu te bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.